Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse de cette divine consolation par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, avant que de continuer les explications de la somme théologique, nous sommes dans le grand traité sur l'incarnation du Christ, De Verbo Incarnato. Je voudrais revenir en arrière sur le dernier cours que j'ai donné. Nous avons surtout étudié la question 27 de la Tertia Pars, article 3, sur le germe de la concupiscence, se posant la question avec saint Thomas s'il avait existé dans la Très Sainte Vierge Marie. Je vous avais expliqué que saint Thomas n'était pas très clair dans sa réponse et qu'il y avait des contradictions entre ce qu'il disait là et ce qu'il avait dit dans d'autres parties de ses œuvres. Je voudrais revenir là-dessus pour que les choses soient plus claires. J'avais cherché à l'époque où j'avais donné ce cours, il y a une semaine ou quelques jours, j'avais cherché un texte, une note théologique que je n'avais pas retrouvée à l'époque. Elle était enfouie dans les milliers et milliers de documents que j'ai sur mon ordinateur. J'ai fini par la retrouver. Et aujourd'hui, je voudrais utiliser cette note pour reprendre un petit peu, compléter un peu ce que j'ai dit la semaine dernière. Je vous ai déjà expliqué que saint Thomas d'Aquin vivait à une époque, écrivait à une époque, 1270-1274, où le dogme de l'Immaculée Conception, la Très Sainte Vierge Marie, n'avait pas encore été défini, puisqu'il ne sera défini que par le pape Pie IX en 1854. Et donc, il y avait une liberté de ce côté-là pour saint Thomas d'Aquin, bien que déjà à cette époque, beaucoup de gens croyaient en l'Immaculée Conception, la Très Sainte Vierge Marie. Il y avait même déjà dans certains diocèses des messes en l'honneur de l'Immaculée Conception. Alors, nous allons revenir sur ces faits théologiques pour donner plus de lumière à ce que j'ai dit la dernière fois sur saint Thomas d'Aquin. Je vais commencer d'abord par une note publiée par le père, l'abbé Frédéric Le Breton, dans sa petite somme théologique qu'il a publiée en 1860. Que je suis en partie pour donner ce cours. Voilà une note qui a été mise, non pas par lui, peut-être par l'éditeur, je ne sais pas par qui, il n'y a pas de notion de renseignement sur l'auteur de cette note, mais la note est intéressante, je vous l'ai dit, elle est à la page 121, donc sur la question 27, sur la sanctification de la Très Sainte Vierge Marie. Voilà ce que dit cette note. Il convient de rappeler ici le décret du pape Pie IX relativement à l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie. Donc nous sommes en 1854. Par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, des apôtres Pierre et Paul et de la nôtre, nous déclarons, nous prononçons et nous définissons que la doctrine qui enseigne que la Bienheureuse Vierge Marie, dans le premier instant de sa conception, a été en vertu d'une grâce et d'un privilège spécial, accordé par le Dieu Tout-Puissant en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservé et exempte de toute tâche du péché originel et révélé par Dieu, et que par conséquent, elle doit être crue fermement et inviolablement par tous les fidèles. C'est donc aujourd'hui un dogme du foi. Rome a parlé, la cause est terminée. Saint Thomas, qui vivait dans un temps où l'Immaculée Conception n'était point un dogme de foi, s'efforce dans les trois premiers articles de cette question, donc à la question 27, sur la sanctification de la Sainte Vierge, il s'efforce de prouver que la Sainte Vierge a encouru la tâche du péché originel et qu'elle a été purifiée avant sa naissance comme Jean-Baptiste et Jérémie.
Fidèle à notre programme, nous avons dû analyser cette question avec la même exactitude que les autres afin de montrer sur quel fondement était appuyée l'opinion contraire à l'Immaculée Conception. On verra sans peine que toutes les raisons apportées par notre saint docteur tombent devant ce seul mot « Marie a été préservée de toute tâche originelle en vertu d'une grâce spéciale accordée en vue des mérites de Jésus-Christ ». Préservée de la tâche originelle, la Sainte Vierge n'a pas eu besoin de la sanctification dont on parle. La question n'est pas posée d'assez haut. Marie, comme le déclare saint Thomas d'Aquin lui-même, a dû recevoir des privilèges plus grands que ceux d'aucun autre saint. Or, si elle eût été simplement sanctifiée dans le sein de sa mère, rien en cela ne l'aurait distinguée de Jean-Baptiste et de Jérémie. Ici, la conclusion ne répond pas aux prémices. Il était bien plus naturel de tirer cette conséquence, donc Marie était préservée du péché originel et conçue sans péché. Nous ne serions pas surpris que, comme on l'a prétendu, le texte de saint Thomas d'Aquin ait été falsifié dans toute cette question où l'on ne retrouve pas sa logique habituelle. Il est certain qu'il n'a pas mis la dernière main à cette troisième partie de la somme, qui n'a paru qu'assez longtemps après sa mort. Aussi n'en trouve-t-on que de rares manuscrits, tandis que ceux de la deuxième partie et surtout de la première abondent. Il est également certain qu'il a professé la doctrine de l'Immaculée Conception dans son commentaire sur l'Église aux Galates, où s'exprimant comme le concile de Trente, il dit « On excepte la Vierge très digne de louange, la très pure Marie, qui fut exempte du péché originel et du péché actuel. » Nous allons voir, donc, d'abord, premièrement, que saint Thomas écrivait largement avant la déclaration du dogme par le pape Pie IX en 1854. D'autre part, que saint Thomas est mort. Autre chose importante à bien comprendre, saint Thomas d'Aquin est mort alors qu'il n'avait pas terminé l'écriture de sa troisième partie, Tertia Pars. Saint Thomas avait l'habitude, nous allons expliquer après, saint Thomas avait l'habitude d'écrire une première fois avec des notes qu'il donnait à son secrétaire ou à ses secrétaires, et ensuite il revenait sur ses écrits pour les peaufiner, pour les purifier et pour les arranger. Il n'a pas eu le temps de faire ça parce qu'il est mort avant la fin. Ça, il faut bien comprendre cela. Un autre point important, avant de juger trop durement saint Thomas d'Aquin, consiste à se rappeler qu'au temps de saint Thomas d'Aquin, je vous l'ai déjà dit dans le cours dernier, les mystères de l'embryologie étaient absolument inconnus. Je ne conseille pratiquement pas du tout comment se former le développement fœtal dans le ventre, dans le sein de la mère. Et donc, à l'époque, on pensait qu'il y avait d'abord le corps qui était formé, dans ses prémices, et qu'ensuite l'âme se rajoutait. Il est évident que pour qu'une tâche morale, le péché originel, puisse marquer l'âme, il faut que l'âme soit là. Une tâche morale ne peut pas marquer un corps sans âme. Donc, saint Thomas d'Aquin, comme la plupart de ses contemporains, sur ce point-là, suivait les notions de médecine de l'époque, qui étaient un peu dans leur balbutiement, surtout dans ce domaine-là. Et donc, si, comme le pensaient les médecins de l'époque, le corps était d'abord formé, l'âme arrivait après, il pouvait y avoir, selon saint Thomas, on va voir avec d'autres textes, il pourrait y avoir, selon saint Thomas, une corruption purement physique du corps, mais quand l'âme arrive, la corruption ne passe pas dans l'âme par un miracle du bon Dieu qui empêche ce passage de la corruption du corps à l'âme. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Je fais cette conférence le 7 mars, le jour où je l'ai enregistré. 7 mars, ça tombe bien, c'est le jour de la fête de notre grand saint patron, saint Thomas d'Aquin. Donc j'ai bien prié pendant la messe ce matin en son honneur, et j'ai devant moi, sur mon bureau, à côté des documents que j'utilise pour faire ce cours, une relique de première classe de saint Thomas d'Aquin que j'ai bien embrassée avant de faire ce cours pour ne pas vous dire trop de bêtises. Alors je voudrais utiliser une note importante qui a été écrite par un théologien important du 19e siècle, l'abbé Lachat, L-A-C-H-A-T. Donc, qui a publié une traduction de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin en 1874. Dans ces, ce travail très important qu'il avait fait, il y a une note insérée au tome 6, la page 133, la page 133 à la page 141, justement sur cette question-là. Cette note est très importante, elle est très théologique. Je vais la simplifier un petit peu et d'en retirer les parties les plus importantes pour vous aider à avoir les idées claires sur ce problème de Saint Thomas d'Aquin et de l'Immaculée Conception. Il faut garder l'esprit d'Église. Il y a des gens pleins d'eux-mêmes qui prétendent que Saint Thomas d'Aquin est un piètre théologien parce qu'il aurait fait une erreur dans ce domaine. Il y a un certain site américain fait par des finéistes qui se déclarent être le seul catholique qui se met à pourfendre tous les autres sites sédévacantistes et déclarant tous ces hérétiques. Qui déclare que Saint Thomas d'Aquin était un hérétique et qu'après avoir dit quelques bonnes choses dans Saint Thomas, il y a beaucoup de choses qui sont fausses et donc il conseille de laisser tomber Saint Thomas qui aurait fait une erreur en matière théologique sur l'Immaculée Conception. Alors, voilà la note, une partie de la note de l'abbé Lachat. Donc, sa somme a été éditée par Vives en 1874. Alors, je ne sais pas s'il a écrit cette somme cette année-là ou quelques années auparavant, mais enfin, c'est dans cette époque de temps, 1874. Donc, voilà ce qu'il dit. Il rappelle puisqu'il est juste après la déclaration du pape IX, qui a donné la définition de l'Immaculée Conception, je vous rappelle, en 1854. Donc, il rappelle de nouveau ce texte que je viens de vous lire. Et ensuite, voilà ce qu'il écrit. Après cette infaillible décision de Pie IX, définissant l'Immaculée Conception, qu'importe à la fois le sentiment particulier des docteurs. Rome a parlé, la cause est terminée, comme disait saint Augustin de son temps. Cependant, pour l'honneur de la sainteté, de la tradition chrétienne et de la théologie catholique, nous voulons prouver que celui dont la mère du Saint-Amour avait saint les reins n'a pas trahi le devoir de la reconnaissance avec les intérêts de la vérité en flétrissant la pureté de la céleste protectrice. Alors voilà ce qu'écrit Lachat. D'abord, saint Thomas d'Aquin, dans un commentaire du livre des Sentences, a enseigné que la Sainte Vierge fut exempte du péché originel. Les anciennes éditions de ses ouvrages, notamment celle de Lyon en 1520, puis celle de Rome en 1570, faite par l'ordre de Saint-Pie V, et confrontée avec les meilleurs manuscrits de l'époque, renferme ce passage à l'endroit indiqué. Voilà, je cite saint Thomas. Donc, dans son commentaire des Sentences, qui a été écrit plusieurs années avant la Somme. Le commentaire des Sentences est une des premières œuvres théologiques de saint Thomas, commentant, comme on le faisait à l'époque, en faculté de théologie à Paris, en commentant le livre sur les Sentences de Pierre Lombard. Voilà le texte de saint Thomas. « La pureté se conçoit par l'absence de son contraire. La plus grande pureté possible dans les créatures est donc celle qui n'est souillée par aucun péché. Et telle est la pureté de la Vierge Bienheureuse qui fut exempte du péché originel et du péché actuel. » Cependant, cette pureté était au-dessous de celle de Dieu parce qu'elle renfermait la possibilité du péché. Donc, saint Thomas d'Aquin a enseigné que la pureté de la très sainte Vierge Marie était telle qu'elle fut exemple du péché originel et du péché actuel, conséquence du péché originel. Donc, saint Thomas d'Aquin a cru et a écrit que la très sainte Vierge Marie est Immaculée Conception. Et ce n'est pas le seul passage. Le père Lachat explique que saint Thomas, dans son commentaire sur une épître de saint Paul aux Galates, dans son chapitre 3 à la lecture 6, il excepte la très sainte Vierge Marie des femmes qui ont contracté le péché originel. Donc voilà son texte. Encore une fois, saint Thomas d'Aquin qui écrit « Bien qu'il ait daigné se faire malédiction pour nous, le Christ est le seul et l'unique qui ne soit pas soumis à la malédiction du péché. C'est de là qu'il est dit dans le psaume « Je suis le seul jusqu'à ce que je passe. De même, il n'y en a point qui fasse le bien, il n'y en a pas un seul. » Puis, cite l'Ecclésiastique, « Entre 1000 hommes, je n'en ai trouvé qu'un seul, savoir Jésus-Christ, qui est sans péché. Mais, dit saint Thomas, de toutes les femmes, je n'en ai pas trouvé une seule qui n'ait quelque péché, du moins le péché originel ou le péché actuel. Mais, on excepte la Vierge très digne de louange, la très pure Marie qui fut exemple de tout péché, du péché originel et du péché véniel. » Donc, c'est clair, Encore une fois, dans ce texte, saint Thomas d'Aquin déclare qu'il croit en l'Immaculée Conception de la très sainte Vierge Marie. Nous verrons qu'il y a d'autres passages encore dans lesquels il professe la même chose. Donc le passage qui proclame la pureté perpétuelle de la Vierge se trouvait dans les manuscrits, donc il est bien sorti de la bouche de saint Thomas et il est absolument authentique. Alors, nous allons voir qu'il y a un troisième texte de saint Thomas dans son commentaire sur le « Je vous salue Marie ». Donc, il a écrit quand il prêchait à Naples. Donc, voilà ce que dit saint Thomas dans ce troisième texte. Donc, si on confronte sur ces manuscrits les éditions imprimées de saint Thomas, celles de Paris, d'Anvers, de Cologne et même celles de Venise de 1776, même celles de Rome faites par l'ordre de Saint-Pie V en 1570, on verra que la haine de l'Immaculée Conception a porté une main coupable sur le texte primitif de la salutation angélique, c'est-à-dire le commentaire sur « Je vous salue Marie ». Selon ces éditions, le chef de l'école, saint Thomas, après avoir dit que l'ambassadeur du Très-Haut vénéra la Sainte Vierge parce qu'elle surpassait les anges par la grâce et par la familiarité avec Dieu, ajoute « Elle les surpassait aussi par la pureté, car non seulement elle était pure en elle-même, mais elle a procuré la pureté aux autres. Elle était très pure en elle-même quant à la faute parce qu'elle n'encourut ni le péché mortel ni le péché véniel. » En fait, le texte original dit ceci, voilà le texte de saint Thomas, contrairement à ce qu'on prétend. Le texte original de saint Thomas dit « La très sainte Vierge Marie n'encourut ni le péché originel, ni le péché véniel, ni le péché mortel. » Donc, le manuscrit du roi, celui de Saint-Victor, celui de Notre-Dame, porte « Elle n'encourut ni le péché originel, ni le péché mortel, ni le péché véniel. » On voit donc qu'on a supprimé dans les auditions imprimées postérieures un mot essentiel, celui de « originel ». Saint Thomas n'a pas simplement dit « Elle n'encourut, la Sainte Vierge n'encourut ni le péché mortel, ni le péché véniel. » Il a écrit en fait « La Sainte Vierge n'encourut ni le péché originel, ni le péché mortel, ni le péché véniel. » Vous voyez, ces distinctions sont extrêmement importantes. Donc, il est clair qu'on a falsifié non seulement l'explication de la salutation angélique du « Je vous salue Marie », mais encore le commentaire sur l'Épître aux Galates. Donc, les premières éditions de cet ouvrage portent le texte que je vous ai déjà lu, « De toutes les femmes, je n'en ai pas trouvé une seule qui n'ait pas quelque péché, du moins le péché originel ou le péché actuel. » Saint Thomas rajoute « On excepte la Vierge très digne de louange, la très pure Marie, qui fut exempte de tout péché, du péché originel et du péché véniel. » Dans les éditions plus récentes, une main peu délicate a supprimé la dernière phrase « On excepte la Vierge Marie, très digne de louange, qui fut exempte de tout péché, du péché originel et du péché véniel. » D'autres ouvrages ont soulevé cette réclamation, mais chose étrange, ou plutôt toute simple, dans les siècles de lumière et de progrès, aucun éditeur ne l'a entendu jusqu'à ce jour. Donc, pour résumer, il y a donc plusieurs textes. D'une part, un commentaire de saint Thomas sur le livre des sentences. Deuxièmement, un commentaire de saint Thomas sur l'épître de saint Paul aux Galates. Troisièmement, un commentaire de saint Thomas sur le « Je vous salue Marie » qui enseigne explicitement, par la bouche même de saint Thomas d'Aquin et toute son autorité théologique, que la très sainte Vierge Marie a été conçue sans la tâche du péché originel, donc elle est Immaculée Conception. Bon. Certes, on ne trouve pas le mot Immaculée Conception dans saint Thomas d'Aquin, mais il dit exactement la même chose, elle a été conçue sans le péché originel. Bon. Alors, le problème est le suivant, c'est que plus tard, avant sa mort, quand il a écrit la troisième partie de la Somme, c'est cette partie qu'il n'a pas terminée puisqu'il est mort trop tôt en 1274, dans cette Somme théologique, surtout dans cette question 27 article 3, donc sur le germe de la concupiscence qui aurait existé dans la Sainte Vierge Marie, bon, il n'a pas enseigné que la Sainte Vierge a été purifiée après son animation. Donc, il y a, c'est vrai, je l'avais fait un petit peu remarquer dans mon cours la dernière fois, qu'il y a certains sophistes, cette contradiction même dans le texte même de saint Thomas d'Aquin, de cette, surtout de cette question 27, article 3 de la Tertia Pars. Alors voilà ce que dit l'achat. Comme la créature raisonnable est seule capable de pécher, l'enfant conçu ne peut en être souillé avant d'avoir reçu l'âme raisonnable. Le corps de la Vierge Mère a donc été pur avant son animation, dans les premiers moments de son existence. D'un autre côté, son âme formée par Dieu même, ornée de tous les trésors de la grâce, brillait de toute pureté quand elle parut à l'existence. Donc ni l'âme, ni le corps de Marie, ce vase d'élection, ce miroir de la sainteté, n'ont jamais subi l'infection du péché originel. Donc, le pape Alexandre VII, cité par le pape Pie IX, dit... Les fidèles célèbrent la fête de la conception dans la pensée que la Vierge Mère, Mère de Dieu, la Vierge Marie, Mère de Dieu, a été mise à l'abri du péché originel. Donc le prince des philosophes, saint Thomas d'Aquin, le prince des philosophes et des théologiens, est-il l'auteur d'une page qui renferme autant de non-sens et de contradictions que de mots? Le lecteur a donné depuis longtemps la réponse. La mort, l'achat va jusqu'à dire probablement le poison, préparant des regrets éternels à la science, à la religion, va arrêter le docteur angélique au milieu de sa carrière. Une chose est certaine, c'est que saint Thomas d'Aquin n'a pas terminé la somme théologique. Donc, cela demande une explication. Voilà l'explication donnée par l'abbé Lachat. Les différents ouvrages de saint Thomas ont été composés de trois manières. D'après la tradition, et comme nous le voyons par les manuscrits, le chef de l'école théologique, après avoir médité un sujet, en tracer les pensées fondamentales, souvent à l'aide d'un homme de main, d'un secrétaire ou d'un écrivain, et même plusieurs secrétaires. Ensuite, quand il destinait son œuvre à la publicité, il développait la matière. Puis il revenait sur ce second travail, il le limait, il le polissait avec un soin extrême, changeant, ajoutant, retranchant plus souvent encore. Les manuscrits autographes sont couverts de variantes et de ratures. C'est de cette manière qu'ont été composés les commentaires d'Isaïe, de Boèce et de Saint-Denis, mais principalement la somme philosophique et les deux premières parties de la somme théologique, donc prima pars, prima secundae, secunda secundae. Aussi, quelle finie, quelle perfection dans ses écrits. Comme tout se trouve à sa place, comme tout s'enchaîne et forme faisceau. Pas un membre de phrase qu'on puisse effacer, et si quelques formules nous paraissent étranges, c'est que les larges idées qu'elles expriment et dépassent les idées de la philosophie du jour. D'autre fois, deuxième méthode, le grand docteur, après avoir esquissé sur le parchemin ses sublimes conceptions, les développait de vive voix, dans la chaire publique ou dans la chaire sacrée, c'est-à-dire soit à l'université, soit depuis la chaire à prêcher, à l'église le dimanche. Et ses disciples et ses auditeurs recueillaient ses paroles à mesure qu'elles sortaient de sa bouche le plus complètement qu'ils pouvaient. C'est ainsi qu'ont été écrits les commentaires sur saint Matthieu, sur saint Jean, depuis le chapitre 5 au moins, sur les épîtres de saint Paul, excepté l'épître aux Romains, celle aux Corinthiens et celle aux Hébreux. L'explication de l'oraison dominicale, du pater, du symbole, du décalogue, des fêtes, etc. Ces ouvrages, ou plutôt ces reportations, comme les appelle Piscinardus, qui nous donne là-dessus de curieux détails. Ces rapports décousus, abrupts, mutilés, remplissent les siècles d'admiration. Enfin, les disciples du maître, et ses frères ou ses frères en religion, les dominicains, se chargeaient souvent d'exécuter le plan qu'il avait tracé, de finir les dissertations qu'il avait ébauchées, d'écrire les articles dont il avait posé les titres. La troisième partie de la somme théologique a été faite de cette manière après sa mort. Donc, si l'on considère la vie de saint Thomas, si l'on compte les années de son enfance, le temps de ses études, ses nombreux voyages à pied dans toute l'Europe, ses travaux dans l'enseignement public, ses fréquentes prédications dans plusieurs pays, ses stations prolongées dans le Saint-Tribunal, en attendant les confessions. On comprendra qu'il n'a pas écrit lui-même de 17 à 20 volumes in folio. Ses manuscrits autographes sont peu nombreux. On ne connaît de sa main, si nous ne nous trompons, que de longs fragments de la somme philosophique. Le commentaire d'Isaïe, celui de Boèce sur la Trinité, ceux de Saint-Denis sur les noms divins et sur la hiérarchie céleste, puis un sermon assez court trouvé par le docteur Uccelli à la bibliothèque de Bâle. Au demeurant, la dernière partie de la somme révèle souvent une main étrangère. C'est la tertia pars dont il parle. On remarque bien encore dans la disposition des matières les traces du grand génie Mais on ne retrouve point partout cette netteté de forme, cette lucidité d'expression, cette profondeur de raisonnement qui distingue les deux premières parties. Donc on a expliqué que justement saint Thomas n'avait pas eu le temps, puisqu'il est mort avant d'avoir terminé la troisième partie de la somme, il n'avait pas eu le temps de revenir sur ces textes comme il le faisait d'habitude pour peaufiner les textes qu'il avait écrits auparavant. Aussi, cette troisième partie, même si elle présente des passages magnifiques, ne jouissait-elle pas sans réserve dans le Moyen-Âge de l'autorité qui s'attache au nom de saint Thomas? Les thomistes, par exemple, dans les disputes contre les scotistes sur l'Immaculée Conception, n'apporte jamais en témoignage la troisième partie de la somme, parce que tout le monde savait qu'elle ne doit pas tout entière le jour au plus grand des théologiens. On négligeait même de transcrire cette troisième partie, car on n'en trouve que de rares manuscrits, tandis que ceux de la deuxième abondent encore plus ceux de la première partie. Donc, le Concile de Trente, dans son cinquième session, décret sur le péché originel, dans les canons 2 et 3, définit sous peine d'anathème que la première prévarication, le péché d'Adam et Ève, a nui non seulement au premier père, Adam, mais encore à toute sa postérité, et que son péché, devenant propre à chacun de ses descendants, se transmet à tous les hommes, non par l'imitation, mais par génération. Puis, le Concile ajoute, « Cependant, le Saint-Concile de Trente déclare que son intention n'est pas de comprendre dans le décret concernant le péché originel la bienheureuse et immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu. » N'oublions pas que le Concile de Trente, c'est le 16e siècle, d'accord ? 35 Pie V, 1570. Donc, le Concile de Trente croyait enseigner l'existence de l'Immaculée Conception. Saint Thomas ne procède pas différemment. Il prouve, nous le supposons toujours, que tous les hommes ont contracté le péché originel. Puis, il dit dans son commentaire sur l'épître aux Galates de Saint Paul, « On accepte la Vierge très digne de louange, la très pure Marie, qui fut exemple du péché originel et du péché actuel. » Donc, nous sommes en droit de conclure, dit Lachat, ce nous semble que les ouvrages de Saint Thomas ont été altérés dans les passages relatifs à la conception de la très sainte Vierge Marie. Là, je rajoute une petite note personnelle, nous le verrons au prochain cours, peut-être à la fin de celui-là. On voit très bien, par exemple, que dans les traductions modernes de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, qu'il y a des altérations qui ont été faites pour fausser le sens que voulait donner saint Thomas d'Aquin au mot. Par exemple, dans la question 29 de la tertia pars, qu'on n'a pas encore étudié, qu'on étudiera ensemble, ou à la fin de ce cours, ou la prochaine fois, c'est une question sur le mariage de la Mère de Dieu. Dans le texte latin, il est clair, saint Thomas d'Aquin parle de... Il utilise un mot latin qui parle bien, qui veut bien dire qu'on parle du mariage. Du mariage de la Mère de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, devait en naître d'une vierge mariée. Donc il y a eu un véritable mariage entre Marie et Joseph. Et bien, dans la traduction, par exemple, moderne de la revue des jeunes, eh bien, il traduit ça par les fiançailles de la Mère de Dieu. Vous allez me dire, c'est des détails. C'est pas du tout des détails. Parce que la très sainte Vierge Marie et Saint Joseph étaient mariés, mais ne vivaient pas encore ensemble. Donc l'ange Gabriel est venu annoncer à Marie qu'elle allait devenir la Mère du Sauveur. Il est venu annoncer cette nouvelle fantastique à une personne qui était mariée. Or, si on dit que Saint Joseph et la très sainte Vierge Marie n'étaient que fiancés, cela semblerait justifier le fait qu'elle puisse avoir un enfant hors mariage, ce qui est évidemment impensable concernant notre Sainte Vierge Marie, concernant tous les catholiques. Donc on verra tout ça. Donc, je suis un petit peu d'accord avec ce que dit l'abbé Lachat ici, que les ouvrages de saint Thomas d'Aquin auraient été altérés dans les passages relatifs à la conception de la Vierge, comme ils ont été altérés aussi plus tard. L'altération, dit-il, se trahit elle-même par les non-sens qu'elle met dans la bouche du plus grand des docteurs. Les premières éditions le prouvent, en nous faisant connaître les textes primitifs. Les manuscrits la mettent en évidence par les témoignages les plus irréfragables. Enfin, tous les savants la dénoncent dans les temps, depuis le XIIIe siècle jusqu'à nos jours. Cependant, la foi, dit Lacha, la piété, la science, l'autorité et tout ce qu'il y a de force et de vie dans l'Église combattit pour le plus beau privilège de notre auguste mère. Là, je ne suis pas trop d'accord avec son texte, parce qu'à mon avis, le plus beau privilège de la Très Sainte Vierge Marie, c'est sa maternité divine. C'est parce qu'elle est mère de Dieu qu'elle est Immaculée Conception, et pas l'inverse. Je continue le texte de Lacha. 144 universités défendaient l'Immaculée Conception. Tous les ordres religieux la proclamaient à l'autel dans le Saint Tribunal du haut de la chair sacrée. D'innombrables confréries dont les noms remplissent 5 colonnes in-folio petits caractères dans l'ouvrage de Pierre d'Alva sur les milices de l'Immaculée Conception l'avaient inscrit sur leur bannière. Les corporations, les villes, les provinces, les états délibérants s'engageaient par serment de mourir pour sa défense. Les souverains d'Espagne, de France, de Pologne, de Bavière, d'Autriche, de Naples conjuraient le Saint-Siège de l'ériger en dogme de foi. En même temps, Sixte IV approuvait l'office de la Conception. Saint Pie V l'introduisait dans le bréviaire à l'usage de toute l'Église. Clément VII élevait la fête au rang de double majeur. Clément X en établissait l'octave. Grégoire XV ordonnait de la désigner sous le nom de Conception et non de Sanctification. Enfin, Clément XI la rendit obligatoire dans tout l'univers catholique. Ces manifestations solennelles, la voix des papes, des rois, des corps souverains, des nations entières, tout cela porta à la croyance dans toutes les âmes. Le jour vint où personne ne combattait plus l'Immaculée Conception que les jansénistes comme Baius et quelques catholiques de mauvaise marque comme Lannoy. Donc nous avons vu, dit Lacha, les principes de notre saint auteur sur la faute originelle. Et voici tel qu'il se trouvait dans toutes les éditions de la Somme. Donc il résume un peu toute son argumentation. Donc c'est la partie importante qu'il faut bien comprendre. Adam, dit-il, par sa prévarication, perdit la justice primitive, ce qu'on appelle la justice originelle, qui soumettait en lui les sens à la raison et la raison à Dieu. Et comme notre Père commun devait, s'il était demeuré fidèle, transmettre à toute sa postérité la justice originelle avec la nature humaine, ainsi la perversion contraire, le désordre causé par sa révolte, se propage de race en race à travers les siècles par le principe de la génération. Le principe vital produit le corps, puis il dispose à recevoir l'âme. Ça, c'est encore une fois ce qui est écrit au temps de Saint Thomas, médicalement parlant. Physiologiquement parlant. En conséquence, le désordre primordial né d'abord dans le corps, ensuite dans l'âme. Il forme là l'élément matériel, ici le principe formel du péché. L'élément matériel du mal, on le comprend, ne souille pas la conscience, ne rend pas coupable devant Dieu, ne constitue pas un péché imputable, car l'âme peut seule être le sujet de la faute morale. La chair n'a pas ce qu'il faut pour remplir cette fonction. Les continuateurs de la Somme enseignent la même doctrine, comme nous l'avons vu dans le célèbre article de la troisième partie. Quant à l'âme, formée par Dieu lui-même après la conception du corps, elle ne dérive pas d'Adam par le principe vital. Elle est créée pure et sans tache, mais elle est infectée par son alliance avec cette portion de boue. Et dès ce moment, le péché d'origine devient forme formelle de matériel qu'il était. Voilà ce qui se passe dans tous les hommes. Et qu'est-il arrivé dans la femme bénie entre toutes les femmes? Je répète qu'à l'époque de Saint Thomas, c'est ce qu'il croyait. D'abord formation du corps, et ensuite, au bout d'un certain nombre de semaines ou de jours, l'arrivée de l'âme. Bon, il est évident qu'une telle conception médicale ne tient plus la route aujourd'hui. On ne pourrait plus dire ça. En plus, c'est extrêmement dangereux de prêcher ça aujourd'hui. À l'époque de Saint Thomas d'Aquin, l'avortement, et tout le monde savait que c'était une horreur. Mais si on suit à la lettre ce qu'enseignaient les chirurgiens de l'époque de Saint Thomas d'Aquin, du Moyen-Âge, à savoir que d'abord le corps se forme, mais non animé par une âme, et qu'ensuite l'âme vient animer le corps, à ce moment-là, ça pourrait dire que on pourrait accepter l'évacuation volontaire, donc l'avortement en quelque sorte d'un enfant, avant l'arrivée de l'âme. Maintenant, on sait de façon certaine, ça c'est pas la foi, simplement qui nous le dit, mais c'est aussi la physiologie, la médecine, on sait de façon formelle que la vie humaine est formée dès le début, c'est-à-dire entre l'union de la première gamète masculine et la gamète féminine, l'union du spermatozoïde avec l'ovule féminin. Dès cet instant, au moment précis où le patrimoine génétique de la femme est uni au patrimoine génétique de l'homme, dès ce moment, il y a vie. Et puisqu'il y a vie, il y a âme. Il ne peut pas y avoir un corps animé sans sans âme. Il ne peut pas y avoir un corps vivant sans une âme pour animer ce corps. Bon. Alors, je continue le texte de l'achat. Saint Thomas pense que la fille d'Anne, très sainte Vierge Marie, a contracté dans la conception de son corps la tâche physique du péché originel. C'est pour cela qu'il enseigne dans son commentaire sur le « Je vous salue Marie » qu'elle a été purifiée dans le sein de sa mère et les continuateurs de la Somme parlent aussi de sa purification. Mais ce désordre matériel a-t-il atteint son être spirituel? Mais cette souillure corporelle a-t-elle infecté son âme? C'est ici qu'il fallait arrêter les ennemis de l'île de Marie. Non, jamais l'âme de la Vierge sans tache n'a subi l'infection du mal. Écoutez ce que dit le Je vous salue Marie, même dans les éditions falsifiées, c'est-à-dire le commentaire de saint Thomas d'Aquin sur le Je vous salue Marie. Voilà ce que dit le texte de saint Thomas. C'est une grande chose dans le saint d'avoir assez de grâce pour sanctifier l'âme. Mais l'âme de la bienheureuse Vierge fut tellement pleine de grâce qu'elle la fit refluer sur la chair et qu'elle conçut le Fils de Dieu. L'amour du Saint-Esprit, qui brûlait singulièrement dans son cœur, fit dans son corps des choses si merveilleuses que le Dieu homme naquit d'elle. Ainsi, le cœur a sanctifié la chair dans la Vierge Marie pleine de grâce. Son corps avait contracté le désordre physique du péché originel, mais il ne l'a point communiqué à son âme. Au contraire, cette âme, remplie de la vertu divine, a purifié le corps en s'unissant à lui. Voilà pourquoi, donc, saint Thomas d'Aquin avait écrit dans le projet de la troisième partie de la Somme que la Vierge Bienheureuse fut purifiée dans son animation. Voilà pourquoi elle dit dans le commentaire sur le « Je vous salue Marie » qu'elle a été conçue mais qu'elle n'est pas née dans le péché. Voilà comment il faut entendre tous les passages qui paraissent contraires à sa sainteté primordiale. En un mot, dans la conception corporelle de Marie, désordre physique, il est vrai, mais désordre purement matériel qui n'est jamais devenu formel. Par conséquent, immunité perpétuelle de la faute morale, du péché proprement dit. Pour tourner le docteur angélique contre notre céleste bienfaitrice, pour en faire un ennemi de notre co-rédemptrice, il ne suffisait pas de changer et de supprimer quelques termes ou quelques passages isolés de ses ouvrages, il fallait déplacer les principes fondamentaux de son enseignement. Donc, je pense que les choses sont claires. Donc, il faut, pour comprendre les textes de saint Thomas, qui, il est vrai, dans la troisième partie de la Somme, surtout dans la question 27, ne sont pas très clairs, sont même assez confus sur la très sainte Vierge Marie, il faut se remettre dans les connaissances médicales de l'époque, que j'ai déjà expliqué. Donc l'ange de l'école, c'est saint Thomas d'Aquin, n'a point flétri la reine des anges, le vase d'élection, le miroir de la pureté. Celui à qui le ciel a rendu témoignage qu'il a bien parlé du Fils, n'a point parlé mal de la mère. L'ami de la sainteté, l'apologiste de toutes les vertus, cette voix céleste, cette bouche divine, comme Clément VIII appelle saint Thomas, n'a point méconnu celle que les vierges choisissent pour modèle, que les apôtres allient à la Trinité dans le symbole, que les prophètes annoncent comme le lys sans tache et que les archanges saluent pleines de grâce. Le génie plus divin qu'humain, suscité de Dieu pour éclairer les mystères de la science, qui fournit depuis 6 siècles des conceptions sublimes aux philosophes, des lumières célestes aux théologiens et des définitions dogmatiques aux conciles. Cet athlète de la foi qui a mis l'église militante à l'abri des traits de l'hérésie sous le bouclier de ses ouvrages, comme le dit Paul V, ce docteur immortel qui parlait sous l'inspiration particulière du Saint-Esprit et qui a fait autant de miracles qu'il a écrit d'articles, comme s'exprime le pape Jean XII, n'aurait pas compris que le Fils qui a dans le ciel un Père trois fois saint doit avoir sur la terre une mère sans tache. Et que si le premier Adam a été fait d'une terre vierge, le second doit avoir été formé, selon saint Dominique, d'une chair pure qui n'a jamais été maudite. Il aurait ignoré un dogme qui tient au cœur même du christianisme, une doctrine qui a toujours trouvé son expression vivante dans le cœur des fidèles, comme dans le culte et dans les monuments de l'Église. Une vérité qui a constamment été enseignée dès les temps les plus reculés, dit Pie IX, par les papes, par les évêques, par les pères et par les docteurs. Donc, le Saint Concile de Trente, qui a donné à Marie le titre d'Immaculée, en face de la prétendue réforme protestante, plaçait la Somme théologique à côté de l'Évangile dans la salle de ses délibérations. Aurait-il fait à cet ouvrage un si grand honneur s'il insultait à la gloire de la Mère de Dieu? Et voilà la conclusion de la belle Acha, qui est très belle. Vierge puissante, qui avait terrassé toutes les erreurs et toutes les hérésies, soyez bénie dans les siècles des siècles. Vous avez éclairé l'oracle de l'école, reine des prophètes, des apôtres et des docteurs. C'est avec notre maître bien-aimé que nous vous disons la fleur sortie sans tache d'une tige flétrie, le paradis de délices que n'ont point ravagé les bêtes féroces, le sanctuaire divin que n'ont point souillé les torrents d'iniquité. C'est avec lui que nous vous proclamons le siège de la grâce et de tous les dons célestes, le chef-d'œuvre de la sagesse et de la puissance infinie, la merveille des merveilles qui a épuisé les trésors du possible. Mais si nous vous vénérons comme la plus haute des créatures et la dominatrice suprême, nous vous aimons aussi comme la plus humble des servantes et la plus douce des mères. Demandez dans notre esprit un faible rayon de cette lumière que vous versiez par torrent dans la vaste intelligence de votre glorieux serviteur saint Thomas. Faites qu'après avoir honoré dans le temps selon ses admirables leçons, Faites qu'après vous avoir honoré dans le temps selon ces admirables leçons, nous puissions contempler avec lui, dans les siècles éternels, votre sainteté triomphante et vos incomparables grandeurs. Faites que nous puissions répéter avec les cœurs des anges les paroles qu'il traçait partout, comme un saint délassement dans ses pages immortelles, au milieu de ses sublimes conceptions, parmi ses profonds raisonnements. Ave Maria, Ave Maria. Voilà, c'est la fin de la note de l'achat. Je pense que les choses sont plus claires avec cette note. J'aurais en fait dû la lire avant d'expliquer ces passages controversés de saint Thomas d'Aquin. Malheureusement, je ne l'avais pas trouvé à l'époque. Donc je m'excuse et je rattrape mon retard après le cours. Donc après avoir fait ces clarifications qui étaient, je crois, nécessaires pour la bonne compréhension, pour l'honneur de saint Thomas, je continue maintenant donc ce commentaire sur la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Nous en sommes à la question 29 de la troisième partie sur le mariage de la Mère de Dieu. Sur le polycopier général, vous trouverez les résumés de ce que je vous dis là à la page 145. Je vous ai déjà expliqué dans le commentaire que je viens de terminer à partir de l'abbé Lachat que le titre de cette question 29 de la Tertia Pars, en latin, c'est « De dispensatione matris Dei », ce qui veut dire « du mariage de la Mère de Dieu ». Sponsa, en latin, c'est l'épouse. Bon. Je vous l'ai dit, dans les traductions modernes de la somme théologique de saint Thomas, entre autres de la Revue des Jeunes, eh bien, ils ont osé traduire par « les fiançailles de la Sainte Vierge ». D'accord ? Et dans l'introduction à cette question où saint Thomas met « Le Christ devait-il naître d'une Vierge Marie, d'une Vierge mariée ?» Donc, en latin, « Utrum Christus debuere de desponsata nasci » Est-ce que le Christ devait naître d'une femme mariée ? La Revue des Jeunes traduit également « Le Christ devait-il naître d'une Vierge fiancée ?» Donc, les choses sont claires. Il faut faire attention aux traductions. Alors, voyons un petit peu donc ce qu'enseigne saint Thomas d'Aquin dans cette question 29 du mariage de la Mère de Dieu. Donc, il va se poser deux questions. Premier article, la Christ devait-il naître d'une Vierge mariée? Et deuxième article, y a-t-il eu un vrai mariage entre Marie, Mère du Seigneur, et saint Joseph? Article premier de la question 29 de la Tertia Pars. Donc, le Christ devait-il naître d'une Vierge mariée? C'est un article magnifique sur lequel je vais insister un petit peu, parce qu'il y a de très belles choses. Donc voilà ce que dit saint Thomas. Il va le citer évidemment le texte de saint Luc. L'ange Gabriel fut envoyé à Marie, une Vierge mariée, à un homme appelé Joseph. Donc, dans les deux cas, deux citations, saint Matthieu chapitre 1 verset 18, Marie la mère de Jésus était mariée à Joseph, et dans saint Luc chapitre 1 verset 26, l'ange Gabriel fut envoyé à Marie, une vierge mariée à un homme appelé Joseph. On voit très bien dans les deux cas, la sainte écriture parle d'une femme qui était mariée, donc même si elle ne vivait pas encore déjà plus exactement avec son mari légitime. C'était souvent la coutume, ils se mariaient devant Dieu donc, et la vie commune arrivait plus tard. Mais au début, ils étaient mariés. Donc la Très Sainte Vierge Marie n'était pas fiancée à Saint Joseph lorsqu'elle reçut la visite de l'ange, mais mariée. Voilà ce que dit Saint Thomas. Il convenait que la Vierge dont le Christ devait naître fût mariée à cause du Christ lui-même, à cause de sa mère et à cause de nous. Donc trois raisons. En fait, il en donne quatre raisons. On va les voir. Première raison pour laquelle il convenait que la Vierge dont le Christ devait naître fût mariée. Première raison, afin qu'elle ne soit pas rejetée par les infidèles comme un enfant illégitime. Il est évident, si la Sainte Vierge Marie avait conçu l'enfant Jésus, s'était présentée comme enceinte devant les gens autour d'elle, alors qu'elle n'était que fiancée, elle aurait été accusée d'adultère. Elle aurait été accusée, puis pas d'adultère, parce qu'elle n'était pas encore mariée, d'après les gens, elle aurait été accusée dans ce cas-là de fornication. Non. Et donc on aurait dit que l'enfant Jésus était un enfant illégitime. Hein? Qu'aurait-on pu reprocher aux Juifs et à Hérode, demande Saint Ambroise, s'ils avaient persécuté un enfant apparemment né de l'adultère? Deuxième raison, afin que l'on puisse dresser la généalogie du Christ selon l'usage en ligne masculine. Troisième raison, afin de protéger le nouveau-né contre les attaques que le diable aurait lancées contre lui avec plus de violence. C'est pourquoi Saint Ignace soutient qu'elle fut mariée avant que son enfantement fût caché. Donc, je répète les trois premières raisons pour lesquelles la Vierge devait être mariée. Première raison, afin qu'elle ne soit pas rejetée par les infidèles comme un enfant, ne soit pas rejetée par les infidèles comme un enfant illégitime. Deuxièmement, afin que l'on puisse dresser la généalogie du Christ selon l'usage en ligne masculine. Troisièmement, afin de protéger le nouveau-né contre les attaques que le diable aurait lancées contre lui avec plus de violence. Et quatrième raison, afin d'être nourri par Saint Joseph. Il est donc dit le père nourricier. En général, on utilise le terme de père putatif. Bon. Ce mariage de Saint Joseph et de la Très Sainte Vierge Marie est aussi une très bonne chose, non seulement à cause du Christ, à cause de la dignité du Christ, mais aussi à cause de la Très Sainte Vierge Marie elle-même, hein, par égard pour elle. D'abord parce qu'elle échappait ainsi au châtiment, dit Saint Jérôme, afin de ne pas être lapidée par les Juifs comme adultère. On a déjà expliqué ça. Elle était aussi protégée contre le déshonneur. Et Saint Thomas cite un texte de Saint Ambroise, elle a été mariée pour soustraire au stigmate infamant d'une virginité perdue, celle dont la grossesse aurait semblé faire éclater la déchéance. Enfin, cela convenait à l'égard de la Très Sainte Vierge Marie elle-même pour montrer l'aide que lui apporta Saint Joseph. Encore un texte de Saint Jérôme. Ce mariage convenait aussi pour nous. Cela convenait aussi en ce qui nous concerne. D'abord parce que le témoignage de Joseph atteste que le Christ est né d'une vierge. Parce que, deuxièmement, les propres paroles de la Vierge affirmant sa virginité en reçoivent plus de crédit. Voilà le commentaire qu'en donne Saint Ambroise, cité par Saint Thomas d'Aquin. Cela donne plus de poids aux paroles de Marie et enlève tout motif de mensonge. Car une vierge qui aurait été enceinte sans être mariée aurait voulu voiler sa faute par un mensonge. Mariée, elle n'avait aucune raison de mentir, puisque pour les femmes, la fécondité est la récompense du mariage et le bienfait des noces. Donc ces deux motifs viennent confirmer notre foi. Troisième raison, la convenance de ce mariage entre Saint Joseph et la Très Sainte Vierge Marie, par rapport à nous, pour enlever toute excuse aux vierges qui, par leur imprudence, n'évitent pas le déshonneur. Là encore une fois, texte de commentaire de Saint Ambroise, il ne convenait pas de laisser aux vierges, dont la conduite a meilleure à mauvaise réputation, le prétexte et l'excuse de voir diffamer jusqu'à la mère du Seigneur. Quatrième raison, parce qu'il y avait là un symbole de toute l'Église qui, bien que vierge, a été fiancée, puis étant mariée, à un époux, unique époux, le Christ. Ça, c'est un texte de Saint Augustin. Donc, le mariage de la Très Sainte Vierge Marie et de Saint Joseph représente aussi, symbolise l'Église, épouse mystique du Christ. On peut encore ajouter, dit Saint Thomas, une cinquième raison, à ce que la mère du Seigneur fût une vierge mariée. En sa personne sont honorées et la virginité et le mariage contre les hérétiques qui rabaissent l'un ou l'autre. Alors je précise que dans ce texte de Saint-Thomas que je viens de vous lire, à chaque fois que je prononce le mot mariage ou marié, dans la traduction moderne de la Revue des Jeunes, ils traduisent par fiancé. Systématiquement, ils rabaissent la Très Sainte Vierge Marie. Donc c'est un texte important, je crois. Donc je répète pour que les choses soient claires, parce que c'est un petit peu compliqué, surtout pour ceux qui m'écoutent dans la voiture ou qui ont téléchargé les textes et qui n'ont pas forcément le texte original sous les yeux. Donc il convenait, je résume l'article, il convenait que la Vierge dont le Christ devait naître fut mariée à cause du Christ lui-même, à cause de sa mère et à cause de nous. D'abord, premièrement, à cause du Christ, pour quatre raisons. Premièrement, afin qu'il ne soit pas rejeté par les infidèles comme un enfant illégitime. Deuxième raison, afin que l'on puisse dresser la généalogie du Christ selon l'usage en ligne masculine. Troisième raison, afin de protéger le nouveau-né contre les attaques que le diable aurait lancées contre lui avec plus de violence. Et quatrième raison, afin d'être nourri par Saint Joseph, qui est bien le père nourricier et pas le père physique. Deuxièmement, cela convenait à l'égard de la Vierge elle-même. Premièrement, parce qu'elle échappait ainsi au châtiment, afin de ne pas être lapidé par les juifs comme adultère. Deuxièmement, être ainsi protégé contre le déshonneur. Et troisièmement, pour montrer l'aide que lui apporta Saint Joseph. Troisièmement, troisième partie, cela convenait aussi en ce qui nous concerne. Premièrement, parce que le témoignage de Joseph atteste que le Christ est né d'une vierge. Parce que les propres paroles de la Vierge, deuxièmement, affirment sa virginité pour qu'elles en reçoivent plus de crédit. Troisièmement, pour enlever toute excuse aux vierges qui, par leur imprudence, n'évitent pas le déshonneur. Quatrièmement, parce qu'il y avait là un symbole de toute l'Église qui, bien que vierge, a été mariée à un unique époux, le Christ. Et enfin, cinquième raison, en sa personne sont honorés et la virginité et le mariage contre les hérétiques qui rabaissent l'un ou l'autre. Vous voyez que cet article est vraiment magnifique. Article 2 de la question 29. Y a-t-il un vrai mariage entre Marie, mère du Seigneur, et Saint Joseph? Donc, voilà ce que dit Saint Thomas. En ce qui concerne la perfection première du mariage, il faut dire que l'union entre la Vierge Marie, mère de Dieu, et Saint Joseph fut un mariage absolument véritable. Pourquoi ? Parce que la forme du mariage consiste en l'union indissoluble des esprits par laquelle chaque époux est tenu de garder une foi inviolable à son conjoint. Donc tout le bien du mariage est accompli chez les parents du Christ. L'enfant, la fidélité et le sacrement sont les trois biens du mariage. L'enfant, nous le reconnaissons, le Seigneur Jésus, la fidélité en ce qu'il n'y a eu aucun adultère, le sacrement en ce qu'il n'y a eu aucune séparation. Une seule chose est absente, l'union charnelle. Donc c'est un véritable mariage, ce qu'on appelle un mariage en blanc. Il y a eu dans l'histoire de l'Église plusieurs exemples aussi de mariage en blanc. Il y en a un qui est très connu entre l'empereur allemand de Germanie, je crois que c'était Saint Henri, sa femme Sainte Cunégonde, qui l'a rendue à sa famille vierge après toutes ces années de mariage avec elle. Bon, évidemment, ce sont des exceptions. Hein. Voyons encore un petit peu de temps. La question 30 de la Tertia Pars, l'Annonciation de la Bienheureuse Vierge Marie. Ici, donc, on voit Saint Thomas d'Aquin va commencer à étudier dans cette Tertia Pars la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, sur l'Évangile. Donc, article 1, il y a 4 articles dans cette question 30, donc sur l'Annonciation. Convenait-il d'annoncer la Bienheureuse Vierge Marie ce qui allait se faire en elle? Donc, c'est. Convenait-il donc, si vous voulez, à l'ange Gabriel de venir avertir la Sainte Vierge Marie de ce qui allait se passer? Bon. Le texte que donne Saint Thomas est celui de Saint Luc, chapitre 1, verset 31. « Voici que vous concevrez dans votre sein que vous enfanterez un fils. Bon. » Alors, Saint Thomas donc répond à la question de savoir est-ce qu'il était convenable d'annoncer à la Bienheureuse Vierge Marie qu'elle concevrait le Christ. Alors voilà les réponses qu'il va donner, elles sont très belles, fort intéressantes, il faut les méditer. Je résume un peu l'enseignement de saint Thomas, mais ça ne vous empêche pas d'aller directement au texte pour ceux qui l'ont. D'abord, pour suivre l'ordre qui convenait à cette union du Fils de Dieu avec la Vierge. Marie fut plus heureuse de recevoir la foi au Christ que de concevoir la chair du Christ. Cette intimité maternelle n'aurait servi de rien à Marie si elle n'avait eu plus de bonheur à porter le Christ dans son cœur que dans sa chair. Deuxièmement, pour lui permettre d'attester avec plus de certitude ce mystère quand elle en avait été instruite par Dieu, pour qu'elle offrit à Dieu les services volontaires de son dévouement et pour montrer ainsi un certain mariage spirituel entre le Fils de Dieu et la nature humaine. Voilà pourquoi l'Annonciation demandait le consentement de la Vierge représentant toute la nature humaine. De même, par exemple, que dans un cas de martyr, il faut que la personne pour qui est un véritable martyr consente aux souffrances qu'elle va supporter dans le martyr et consente à donner sa vie pour notre Seigneur Jésus-Christ. De la même façon, il était logique, convenable, que la Très Sainte Vierge Marie soit avertie par l'ange de la volonté du bon Dieu et qu'elle devienne la mère de Dieu, la mère du Christ, et qu'elle donne son consentement par son fiat, qu'il en soit fait en moi selon votre parole. Alors, article 2 de la question 30, qui devait faire cette annonce à Marie? Donc, Thomas reprend Saint-Luc, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Donc, Dieu a voulu que cette annonce soit faite par un archange, Saint-Gabriel. Il convenait que le mystère de l'incarnation divine fût annoncé à la Vierge, à la mère Marie, à la mère de Dieu, par un ange. D'abord, premièrement, afin d'observer en cela l'ordonnance divine selon laquelle les mystères divins parviennent aux hommes par l'intermédiaire des anges. C'est-à-dire, les gens d'en haut enseignent ceux qui sont en bas. Deuxièmement, cela convenait à la régénération du genre humain qui devait être accomplie par le Christ. Pourquoi? Parce que la première cause de la perdition de l'humanité fut l'envoi à la femme par le diable du serpent qui devait la tromper par un esprit d'orgueil. Donc il fallait qu'une deuxième Ève vienne pour rattraper les bêtises de la première Ève. De la même façon qu'il fallait un deuxième Adam, notre Seigneur Jésus-Christ, pour rattraper la prévarication du premier Adam, le père de tous les hommes. Troisièmement, cela convenait à la virginité de la mère de Dieu. Donc la mère de Dieu était supérieure aux anges quant à la dignité à laquelle élevait le choix de Dieu, mais par sa nature humaine, elle était inférieure à la nature des anges. Faut pas oublier ça. Donc c'est pour cela que Lucifer s'est révolté d'ailleurs. C'est ce qu'enseigne Saint Bonaventure. Lucifer se serait révolté et aurait eu crié devant la face de Dieu « Je ne servirai pas » parce qu'il a refusé de reconnaître qu'un être venant d'une nature inférieure à la sienne, c'est-à-dire la nature humaine, alors qu'il avait une nature angélique supérieure à la nature humaine, Lucifer refusait de reconnaître que sa reine allait être une personne qui venait d'une nature inférieure à la sienne. Et donc il a refusé. Donc Saint Thomas reprend un petit peu cette thèse de Saint Bonaventure, enfin plus exactement Saint Bonaventure. Il était contemporain en fait, hein, puisque Saint Bonaventure, si mes souvenirs sont exacts, est mort la même année que Saint Thomas d'Aquin. Il est mort en 274. Mais c'était déjà enseigné avant. Saint Thomas cite un docteur de l'Église, un père de l'Église, Maxime le Confesseur, qui disait que les anges est connu par avance incarnation, il ne faut pas en douter. Donc Dieu a voulu placer les anges devant une épreuve, comme il a voulu donner une épreuve à Adam et Ève. Il a voulu donner une épreuve aussi aux anges, qui ont dû accepter l'incarnation, donc le fait que la nature humaine allait être unie à la nature divine. Article 3 de la question 30, de quelle manière l'Annonciation devait-elle se faire ? Donc, Saint Thomas explique que c'est donc sous une forme corporelle que l'ange annonciateur, l'ange Gabriel, apparut à la mère de Dieu. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, quant au contenu de son message, venait en effet annoncer l'incarnation du Dieu invisible. Aussi était-il approprié pour dévoiler ce fait qu'une créature invisible assume pour apparaître une forme visible. En outre, toutes les apparitions de l'Ancien Testament préfiguraient cette apparition du Fils de Dieu dans la chair. Deuxièmement, cela s'accordait aussi avec la dignité de la Mère de Dieu qui devait accueillir le Fils de Dieu non seulement dans son esprit, mais aussi dans son sein, dans ses entrailles. Et enfin, cela convenait à la certitude du message. Nous appréhendons avec plus de certitude ce que nous avons sous les yeux, pour qu'il n'y ait aucun doute possible. et pour la très sainte Vierge Marie, et pour tous les chrétiens qui suivront, hein, qui vont devoir croire la vérité du message évangélique. Alors, saint Thomas, dans les réponses aux objections, précise certaines choses. Il y a un texte intéressant. Voilà ce qu'il dit. « Le discernement est facile entre esprit bon et esprit mauvais, dit-il. Car si la joie succède à la crainte, nous savons que ce secours est venu du Seigneur parce que la sécurité de l'âme indique la présence de la majesté divine. Mais si la terreur persiste, c'est que l'apparition vient de l'ennemi, le diable. » On voit très bien que la très sainte Vierge Marie, lorsqu'elle entend pour la première fois l'annonce de Saint Gabriel, se pose une question, se trouble. Comment cela sera-t-il possible puisque je ne connais point d'homme? Elle est ensuite rassurée par l'ange Gabriel et retrouve la paix. Alors, article 4. Nous allons terminer ce cours par cet article, numéro 4. Dans quel ordre s'est accomplie l'Annonciation? Article 4 de la question 30 de la Tertia Pars. Donc, dans l'Annonciation, tout fut accompli par l'ange de la façon la mieux ordonnée. Il fallait d'abord, dit saint Thomas, rendre l'esprit de la Vierge attentif à considérer une si haute réalité. Puis, il fallait l'instruire du mystère de l'incarnation qui allait s'accomplir en elle. Et enfin, il fallait amener son esprit à consentir. On ne peut pas consentir à quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas compris. Et donc, il fallait d'abord expliquer les choses. L'ange, donc, apporte une preuve, non pour dissiper l'incrédulité de Marie, mais plutôt pour mettre un terme à son étonnement. C'est là où il va annoncer que sa cousine Élisabeth est enceinte de saint Jean-Baptiste. Nous allons arrêter là, et la prochaine fois, si Dieu veut, nous verrons la question 31 sur la matière à partir de laquelle fut conçu le corps du Sauveur. Donc, on va rentrer à fond dans le mystère de l'incarnation. Nous allons terminer par une prière.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.